Si vous avez une Bible, je vous invite à prendre 1 Samuel chapitre 18 avec moi. Nous étudions ensemble la vie de David, le roi David, ce fameux ancêtre royal de Jésus-Christ qui nous pointe régulièrement les regards vers Jésus lui-même. Alors je vous invite à lire avec moi 1 Samuel 18, versets 1 à 16. 1 Samuel 18. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté ». Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne, il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. » Voilà, comprendre la vie de David, c'est aussi comprendre sa relation et son amitié avec Jonathan. Alors, on fait connaissance avec Jonathan ici, juste après la bataille de David et Goliath. Jonathan, c'était le fils du roi Saül, c'était le prince, c'était le dauphin, l'héritier du trône. Mais nous, en tant que lecteurs de cette histoire, nous sommes déjà au courant que ce n'est pas lui qui va accéder au trône d'Israël, c'est David. David a été choisi par Dieu, loin par Samuel, c'est David qui sera le futur roi. Nous sommes déjà au courant de cela. Jonathan ne sera pas le futur roi. Donc, si jamais il y a 2 personnes qui auraient dû être des rivaux, des concurrents, eh bien, c'est bien David et Jonathan. Et pourtant, ils étaient de meilleurs amis. Alors, ce matin, nous allons voir le géant que Jonathan a tué. David a tué le géant Goliath. Jonathan a tué ou a vaincu un autre géant, c'est celui de la jalousie, ou plus précisément de l'envie. Et je pense que c'est un peu ça le thème de ce chapitre. Nous voyons le contraste entre l'attitude de Jonathan et celle de son père Saül, qui commence à partir de ce moment à être rongé par l'envie et la jalousie, et qui entame le processus de l'autodestruction à cause de cette envie dans son cœur. Mais Jonathan, d'une manière incroyable, quand on regarde bien son contexte, Jonathan, d'une manière incroyable, alors qu'il a encore plus de raisons que son père à envier David, à jalouser David, eh bien, il n'en est pas affecté. Il a vaincu le géant de la jalousie. Jonathan a vaincu le géant de la jalousie. Et un poète grec, Esquil, 500 ans avant Jésus-Christ, qui a dit « Peu d'hommes sont naturellement portés à admirer sans envie un ami heureux. » peu d'hommes sont naturellement portés à admirer sans envie un ami heureux. L'envie porte même envers nos amis quand nous les voyons heureux, difficile à ne pas les envier. Mais Jonathan fait partie de ce peu d'hommes et nous voulons célébrer ce trait ce matin et mesurer à quel point Jonathan est un miracle de grâce dans la Bible. C'est un grand héros de la Bible, un héros discret, puisque son sort va être bien différent que celui de David, mais il partage la même foi, et c'est un grand héros de la Bible. Alors nous allons discuter de l'envie ce matin. Ce passage nous fait découvrir un peu plus sur l'envie, notamment sa nature terrible, ensuite ses effets horribles, et sa fin possible. Voilà, nous allons essayer de vaincre, comme Jonathan, le géant de l'envie qui se glisse facilement dans nos cœurs. Voyons tout d'abord sa nature terrible. En examinant un peu les attitudes qu'on trouve chez Saül, à partir de ce moment, il voit les réussites de David. Alors une chose qui est fort intéressante, qui a toujours attiré les hommes vers l'histoire de David, c'est de voir à quel point l'histoire de David est, c'est vrai, elle est complexe, elle est longue, très riche. L'histoire de David est complexe parce que la nature humaine est complexe. Et cette histoire, l'histoire de David, comme peu d'autres, met en lumière tous les sentiments, les comportements des hommes. Rien que dans ce chapitre, nous voyons le courage, nous voyons l'amitié, nous voyons la peur, nous voyons le délire, nous voyons l'amour. Mais ce qui ressort beaucoup, un sentiment que nous connaissons tous, c'est cette envie. L'envie, la jalousie. Vous le voyez notamment en verset 9, quand il dit que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le mot envie vient du latin qui veut littéralement dire mauvais œil, absence de regard. Donc, mauvais œil, c'est l'envie. Puis on dit souvent que le contraire de l'envie, c'est la bienveillance. Et là encore, on retrouve le sens dans les paroles. Bienveillant, c'est regarder bien. Et le contraire, c'est l'envie, le mauvais œil. Alors, ce matin, je dis jalousie, je dis envie, et je les interchange un peu, mais c'est vrai que l'envie, il y a une légère différence entre la jalousie et l'envie, c'est surtout l'envie ici qui ressort. La jalousie veut peut-être garder quelque chose pour soi. Et parfois, la jalousie est une bonne chose. Il est même dit que Dieu est jaloux de notre amour, ce qui est bien. Un couple, un conjoint a bien le droit d'être jaloux pour son conjoint. Mais l'envie, c'est jamais bien. L'envie, il y a un côté malicieux dans l'envie. Je vous donne une définition. L'envie, c'est s'affliger du bonheur des autres et se réjouir de leur malheur, pouvant aller jusqu'à leur désirer du mal. Cherchant à provoquer le mal. L'envie s'afflige du bonheur des autres et se réjouit de leur malheur. C'est affreux, c'est terrible ce sentiment. Et cela résume parfaitement la vie de Saül à partir de ce moment. Ce sentiment devient tellement dominant, tellement gigantesque dans sa vie. C'est pour ça que j'en parle d'un géant ce matin. Et comme vous savez, dans notre monde, c'est un sentiment qui domine les relations humaines, ce qui est un triste commentaire sur le cœur humain. Un chercheur, un sociologue a remarqué que dans toutes les langues, on a un mot pour l'envie, parce qu'on sait très bien de quoi il s'agit. C'est un des principales armes du diable pour saccager le bonheur dans ce monde. Dans le Nouveau Testament, elle est souvent en tête de liste lorsque on énumère les péchés possibles. Dans la tradition catholique, elle fait partie des sept péchés capitaux, c'est-à-dire les péchés qui sont en tête, qui donnent racine, qui donnent lieu à tous les autres. Et parmi les péchés, je trouve, les mauvais comportements de l'homme, l'envie a un aspect unique, c'est que l'envie n'offre aucun plaisir en le pratiquant. Tous les autres péchés nous propose au moins un moment de satisfaction, de plaisir, même si après cela s'avère amer. D'autres péchés comme l'adultère ou le vol, la calomnie, même la colère dans un sens, au moment, ou l'instant même, peuvent offrir un sentiment de plaisir. Mais l'envie, personne n'a pratiqué l'envie en étant joyeux. Tout le monde sait, il n'y a aucun plaisir dans l'envie. L'envie rend misérable, et c'est ce qu'on voit dans la vie de Saül. Il devient irrité, irritable, il délire, il commence à avoir peur, tous ces mauvais sentiments s'installent à cause de l'envie. Alors c'est ça qui est terrible, l'envie n'offre aucun plaisir parmi tous les péchés, nullement rentable, et pourtant on la pratique souvent. On a pu reprocher le capitalisme de fonctionner avec l'avarice, mais la moteur du socialisme, souvent, ça a été l'envie. Sur le papier, ça sonne bien, l'égalité des classes et des peuples, mais en réalité, on a souvent eu d'autres motivations, en disant, toi, tu es plus riche, toi, tu es plus riche que moi, tu es plus aisé, tu as une entreprise qui marche mieux que moi, alors c'est pas juste, tu me le dois. Et l'envie veut toujours pénaliser la réussite des autres. Et ce qu'on voit, si on étudie un peu la nature de l'envie, on a un cas si classique, si évident dans la personne de Saül. Voyons ce qu'il a envie, ce qu'il jalouse chez David. Tout d'abord, la réussite. L'envie a du mal avec la réussite des autres. Même si soi-même, on réussit, on n'aime pas que d'autres réussissent mieux ou en même temps. Vous voyez que Saül commence à jalouser David et ses réussites. C'est le mot qui revient plusieurs fois. David réussit dans toutes ses entreprises. Alors vous avez le chant des femmes, ce chant de victoire, où les femmes disent « Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000 ». Et Saül ne supporte pas ça. Alors c'est intéressant parce que si David n'était pas là et qu'il avait vaincu des 1000, il aurait été content, il était reconnaissant. 1000, c'est déjà bien. Vaincre 1000 Philistins, c'est formidable. Mais c'est le fait que David vainc 10 000 que c'est insupportable. C'est ça qui est terrible avec l'envie. Au fond, Saül aurait pu être reconnaissant, déjà pour ses 1000, déjà pour ses victoires que l'Éternel lui a permis. En plus, il aurait pu être reconnaissant pour toutes les victoires, les réussites de David, parce que David était un de ses soldats. Les victoires de David, finalement, étaient les siennes aussi. C'était le mieux pour le pays et pour l'armée. Mais non, c'est le fait que David a 10 000 et que lui, il a 1000 qui ne supporte pas. Donc Saül envie la réussite des autres. Aussi, il envie peut-être les capacités de David, sa jeunesse, son dynamisme. C'est vrai que David est jeune, Saül est moins jeune maintenant. David, il est dans l'ascendance. Et cette capacité forte qui ressort dans sa victoire avec Goliath et puis ses entreprises. Donc Saül envie certainement sa jeunesse. C'est dommage parce qu'une génération devrait toujours vouloir que la génération suivante réussisse mieux. Et si Saül avait une vision à long terme, il pourrait dire « c'est super, il y a des jeunes qui se lèvent et je suis reconnaissant ». Mais il les jalouse plutôt. Puis, donc il envie la réussite de David, il envie peut-être ses capacités. Puis j'ai remarqué aussi qu'il a pu envier des bénédictions spirituelles dans la vie de David. C'est là où ça touche même nous, le peuple de Dieu, les chrétiens. Saül envie David parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel accorde sa bénédiction, accorde sa grâce dans sa vie. Nous chantons souvent ce cantique, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. » L'envie est très forte pour compter les bienfaits de Dieu, mais surtout ceux des autres. Et les met constamment devant les yeux et dit combien le nombre en est grand et dit combien c'est injuste. L'envie, c'est très bien compter les bienfaits, ceux des autres. Est-ce qu'il nous arrive d'envier les dons spirituels accordés à d'autres, le progrès spirituel qu'on peut constater, la grâce de Dieu qui s'opère dans une vie pour le ramener. Ça, c'est ça qui est si terrible dans l'envie. Je reviens sur l'expression « mauvais œil ». Saül regarda David d'un mauvais œil. Tout est une question du regard, n'est-ce pas? Jésus avait dit, si ton œil est mauvais, tout ton corps, toute ta vie est mauvais, toute ta manière de réfléchir sera pourrie, si ton œil est mauvais. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que Saül et Jonathan voient la même chose. Tous les deux peuvent regarder un David réussir. Tous les deux voient la même chose, mais ils accordent une interprétation différente à ce qu'ils voient. Jonathan voit David et ses réussites, et qu'est-ce qu'il dit, Jonathan? Il dit, formidable, c'est super d'avoir quelqu'un comme ça près de moi. Je veux être près de lui, je veux m'attacher avec lui, je veux être son ami, je veux m'entourer de telle personne. Jonathan voit ça et il agit de cette manière. Saül voit la même chose, les réussites, et lui dit, je veux m'éloigner de lui, je veux me débarrasser de lui, je veux le détruire. Il voit la même chose, mais il donne des interprétations différentes. Voilà comment fonctionne l'envie. L'envie pourrit notre regard sur ce qui se passe autour de nous. L'envie nous empêche d'être reconnaissants pour les bénédictions que Dieu nous accorde. Alors, quel regard avons-nous? Quelle version choisissons-nous de croire lorsque nous voyons les personnes autour de nous? Ça, c'est la nature terrible de l'envie. Maintenant, voyons ces effets horribles, comme ce qui va se produire notamment dans la vie de Saül. Regarder la vie de Saül à partir de ce moment, c'est comme regarder en ralenti un crash d'hélicoptère qui essaie d'atterrir sur le côté. Là, Saül entame la spirale fatale de l'autodestruction. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'accepter le verdict de Dieu sur sa vie, au lieu d'accepter les conséquences de ses actions, c'est ça la repentance, c'est accepter le verdict de Dieu sur notre vie, accepter peut-être les conséquences de nos mauvaises actions, et puis repartir avec Dieu. Au lieu de faire cette démarche d'humilité, Saül s'accroche à sa position, il s'accroche à sa royauté, et il veut tout empêcher pour que les plans de Dieu arrivent. Mais ici, nous commençons à voir la maison de Saül qui va descendre, qui va être abaissée par Dieu, et puis la maison de David, la dynastie de David, qui va monter. Ça d'ailleurs, cela nous a été annoncé, c'est une phrase clé du livre de Samuel. Ça commence tout au début avec Anne. Vous vous souvenez, Anne, c'est la mère de Samuel, elle était stérile, Dieu a exaucé sa prière, elle a pu enfanter Samuel. Et dans sa prière, c'est ce qu'elle a compris. Elle a compris que l'Éternel, il abaisse les grands et les puissants de ce monde et il élève les humbles, les faibles, les stériles. Comme c'était son histoire, elle était plus ou moins rejetée par le monde à cause de sa stérilité. La réussite allait toujours vers celle qui avait beaucoup d'enfants, mais elle a compris que Dieu renversait la tendance et Dieu allait vers les humbles pour les élever, puis allait vers les orgueilleux pour les abaisser. Ça, c'est une phrase clé de ce livre et de la Bible, et nous commençons à assister vraiment à cette vérité dans la vie de Saül et de David. David, le petit berger humble, va être élevé. Saül, le grand, celui qui s'accroche vraiment à sa position, qui s'entête, qui s'endurcisse, lui, il va être abaissé. Et la manière que Dieu va abaisser Saül, c'est de livrer Saül à l'envie. Parce que l'envie est terrible, l'envie est horrible dans les effets qu'elle produit dans notre cœur, dans notre vie. À cause de l'envie, Saül, à partir de ce moment, est incapable de prendre la moindre décision sage pour sa vie et pour son royaume. toutes les décisions qu'il prend, c'est pour faire du mal à David. C'est pour nuire au bonheur et à la bénédiction de David. Et du coup, ça va le détruire. Il va chercher à détruire David, mais il va se détruire en se faisant. Tout ça, c'est bien sûr un avertissement pour nous. La voix de l'envie est horrible dans ses effets. Il y a un proverbe qui dit « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant l'envie, devant la jalousie ?» Qui résistera devant ce sentiment? Vous ne pouvez pas vous dire, on ne peut pas se dire « Je vais remplir mon cœur de jalousie et puis je vais résister à ses effets. » Ça, c'est impossible. On ne peut pas dire « Je vais remplir mon cœur de l'envie et puis je vais résister à ses effets dans ma vie, dans mon entourage. » Impossible. Qui peut résister à un tel sentiment? Personne. Alors, vous voyez bien que Saül, par envie, cherche à détruire David. C'est déjà un effet horrible de l'envie, c'est qu'elle cherche à détruire les autres. Mais en ce faisant, il commence à se détruire. Alors, la suite de ce chapitre que nous n'avons pas lu, mais on commence à... ce sera le premier des nombreux pièges que Saül essaie pour se débarrasser de David. Là, il va exploiter ses deux filles, sa famille, pour essayer de faire mourir David en proposant notamment, en demandant une dot assez élevée, la mort des Philistins, en échange pour la main de sa fille. Déjà, il avait promis à celui qui a tué Goliath, mais il ne semble pas être très fidèle dans ses paroles. Et il va utiliser donc la main de ses filles, espérant que David, pour remporter la dot, se fasse tuer par les Philistins. Ça ne marche pas. Mais c'était une des nombreuses pièges que nous allons voir dans la suite de l'histoire, à quel point Saül essaie de tuer David. Mais on voit bien que quand il commence à s'engouffrer dans cette voie de l'envie, c'est le dégringolade. Le verset juste dit que le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül qui eut des excès de délire. Donc ça commence avec l'irritation. Ensuite, c'est le délire, ensuite c'est la peur, et Saül est complètement incapable d'être un bon roi pour sa famille et pour son pays. Une question que je me pose souvent, c'est comment la théorie de l'évolution explique tel ou tel comportement chez l'homme ? Vous avez peut-être remarqué ça dans mes messages, mais comment la théorie de l'évolution explique tel ou tel comportement chez l'homme? Comment la théorie de l'évolution explique l'envie, la présence répandue de l'envie dans le cœur humain? Alors, Wikipédia, cette source infaillible de vérité, dit que l'envie serait une manifestation logique de l'instinct de survie. C'est-à-dire, oui, pour survivre, pour être plus fort, forcément, on envie les espèces ou les créatures qui s'en sortent mieux. Le girafe avec le cou rétréci, il envie le girafe avec le cou allongé. Reste à expliquer pourquoi la suite, la descendance de ce girafe aurait un cou plus long parce que son parent enviait un cou plus long. Mais ça, c'est une affaire pour les scientifiques. La chose, c'est que personne, dans tout ce que j'ai pu rechercher et lire en préparant ce message, personne, athée ou chrétien, célèbre le sentiment de l'envie. Tout le monde sait qu'il est hautement condamnable. Vouloir nuire au bonheur des autres lorsqu'ils réussissent et s'affliger de leur bonheur, c'est la bassesse totale. Tout le monde reconnaît que c'est un mal de vivre dans l'envie. Et c'est ça où la Bible offre une meilleure explication, en disant nos cœurs sont tordus, sont brisés, sont rebelles. Non pas que l'envie serait un instinct de survie utile. Tout le monde reconnaît que ce n'est pas utile, c'est autodestructeur. Même Bertrand Russell, ce philosophe britannique, athée pourtant, disait que L'envie est la plus importante des causes du malheur. En tout cas, c'est ce qu'il dit. L'envie serait la plus importante des causes du malheur. Proverbe le rejoint, les proverbes de la Bible le rejoignent en disant « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Alors, c'est là où le constat que cette envie, c'est un géant gigantesque, plus fort que nous. Il nous domine trop souvent. Alors, nous voulons savoir maintenant, est-ce qu'il y a une fin possible? Comment mettre fin à cette envie qui peut apparaître dans mon cœur? Eh bien, c'est là où Jonathan, le personnage de Jonathan, entre en jeu. Parce que là, nous voyons que l'envie n'est pas une fatalité. Nous voyons que Jonathan, face aux mêmes circonstances, Jonathan a manifesté une toute autre attitude. Tel père, tel fils n'est pas vrai, pour une fois. Heureusement. Mais je dis ça, sachant que Jonathan avait encore plus de raisons à envier David que Saül. Saül, on va dire, il s'approchait de la retraite. Bon, il n'y avait pas de retraite pour le roi, c'était la mort. Mais Saül s'approchait de la retraite. Jonathan, c'était lui qui prétendait au trône. Donc le concurrent, le rival pour Jonathan, c'était David. Il avait toute raison à envier sa victoire sur Goliath, ses réussites dans ses entreprises. Et puis, raison de plus que Jonathan aurait pu envier David, vous savez, c'est que nous envions souvent ceux qui nous ressemblent, qui nous sont proches, qui sont dans notre champ d'action. C'est-à-dire les musiciens, ils envient d'autres musiciens, pas forcément d'autres athlètes, parce que pas de différents intérêts. Des mamans envient d'autres mamans, des pasteurs envient d'autres pasteurs. En tout cas, la tentation est là, d'envier des gens qui sont comme nous, qui partageant peut-être les mêmes qualités ou le même métier ou les mêmes circonstances, parce que c'est cela que nous voyons, c'est avec cela que nous nous comparons. Donc la tentation, c'est d'envier ceux qui sont comme nous. Il faut dire que Jonathan et David avaient beaucoup en commun. Tous les deux soldats très courageux, tous les deux en quelque sorte prétendants au trône, tous les deux ayant accompli des exploits contre les Philistins, tous les deux sachant manier l'épée, tous les deux à la cour de Saül, où les intrigues politiques peuvent encore faire rejaillir l'envie. Mais même par cette ressemblance, Jonathan, complètement vide de tout sentiment d'envie. Un autre détail intéressant que j'ai appris en étudiant, quel âge avait Jonathan quand il a rencontré David? Quel âge avait David? Quel âge avait Jonathan à ce moment? On n'a pas tous les éléments, mais le récit de Samuel, si vous creusez dans les détails, les versets par-ci, par-là, on a quelques éléments qui nous permettent de calculer certaines choses. Alors, c'est peut-être pour les matheux, mais je pense que vous allez pouvoir suivre. On sait que Saül a régné pendant 40 ans. D'accord? Le règne de Saül était 40 ans. Et on sait que David avait 30 ans quand il est devenu roi au moment de la mort de Saül. Donc Saül a régné 40 ans et David, à la mort de Saül, avait 30 ans. Alors, conclusion, David est né lorsque Saül avait déjà commencé à régner 10 ans. Vous avez suivi jusqu'à là? Mais autre détail, c'est que il semble plus ou moins au début du règne de Saül, on dit qu'il était jeune, mais rapidement dans son règne, on trouve Jonathan, un de ses soldats, dans son armée, capable de se battre. À l'époque, un soldat commençait à 20 ans. Alors, il manque quelques chiffres, même si vous regardez dans votre Bible 1 Samuel 13, verset 1, il dit Samuel commençait à régner à... Et puis il y a une vide, le manuscrit semble être corrompu ou perdu, effacé à ce moment-là. Donc on ne sait pas exactement, c'est une des rares occasions où un chiffre nous manque dans la Bible. Mais mettez tout ça ensemble, faites les maths et Jonathan souvent dans ma tête, Jonathan et David avaient toujours tous le même âge. C'était des copains d'enfance. Mais non, si Jonathan avait plutôt 20 ans, un soldat, au début du règne de Saül, et que David est né 10 ans après le règne de Saül, il y a quand même un écart d'âge. 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est possible. En tout cas, on va dire, on pourrait bien conclure que Jonathan avait au moins 20 ans de plus que David. Alors, si vous pensez à ça, ça rend l'histoire ce matin encore plus forte. Tout cela à une époque et dans une culture où l'âge, l'ordre de naissance d'une famille est très important. Jonathan était l'aîné de sa famille, David était le petit dernier du sien. Alors, Jonathan aurait pu facilement envier cette place. Normalement, le petit dernier, il ne prend pas l'ascendance sur l'aîné. Le petit jeune, il doit se plier devant celui qui a 20 ans, 30 ans plus que lui. Alors Jonathan aurait pu s'attacher à ces choses, s'accrocher à ce droit d'aînesse, à son âge. Mais non. Pas une trace de jalousie ou d'envie pendant toute la vie de Jonathan. C'est un des grands miracles de la Bible. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour n'est point envieux. Vous connaissez cette phrase, l'amour n'est point envieux. Eh bien, c'est cet amour-là que Jonathan avait pour David quand il s'agit, verset 1, Jonathan l'aima comme son âme, l'amour n'était point envieux. Mais cela va encore plus loin dans ce que Jonathan, dans l'attitude qu'il manifeste envers David. Comme vous lisez ce verset, verset 4, donc, il aime David, et puis verset 4, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. À l'époque, le manteau d'un prince, les armes d'un prince avaient une signification. C'était lié à sa position. C'était un signe de primauté. Le manteau d'un prince, le manteau d'un roi, c'était un marque d'autorité. Et Jonathan va donner ce manteau, ses armes, à David. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph et ses frères. Ce que ses frères ne supportaient pas, c'est que le petit dernier ait le manteau. C'était plus qu'un manteau coloré. C'était un manteau qui signifiait certainement la première place, la primauté. Mes filles échangent leurs habits facilement avec leurs copines. Parce que c'est mouillé ou c'est sale ou ils ont besoin d'un t-shirt de plus. Alors, ils échangent facilement d'habits avec leurs copines. C'est vrai, ça montre une certaine amitié. Mais c'est pas juste que Jonathan voulait lui donner un manteau en vue de l'hiver qui s'approchait ou c'était un cadeau de Noël. Non, c'est la signification ici, c'est beaucoup plus. C'est Jonathan qui va mettre de côté ses droits. Sa royauté par amour pour David. Le manteau, c'était les gens pouvaient s'accrocher à ce manteau comme signe d'identité royale. Et Jonathan va mettre ça de côté. Pourquoi il fait ça? Ben, on voit que pour Jonathan, son identité était dans le plan de Dieu pour sa vie. Pas forcément dans une position ou dans un manteau symbolique, fort symbolique, ou cette position de dauphin. Son identité n'était pas 100% liée à ces choses, c'était dans le plan de Dieu. Et quelque part ici, nous reconnaissons qu'il reconnaît déjà dans la personne de David un futur roi. Est-ce qu'il est entièrement conscient que c'est le futur roi d'Israël? Je ne sais pas. Mais quelque chose lui dit que lui, il peut mettre de côté ses droits, sa royauté en faveur de cet homme David. Et c'est ça qui est si fort. Jonathan, vous voyez, il n'a pas besoin de s'accrocher à un titre, à une position. Parce qu'il partage la même foi que son ami David, partage cette foi en Dieu. Son identité, c'est en Dieu, pas dans une position ou dans ce que les autres pensent de lui. Et c'était ça le grand problème de Saül. Saül était très sensible à ce que les gens pensent de lui. On n'a pas étudié cette histoire, mais avant, lors de sa grande faute, son obéissance, il a dit, il donnait une explication, il dit « J'ai dû écouter la voix du peuple ». Donc, Saül est sensible à la voix du peuple. Pareil ici, lorsque les femmes chantent. Hein, c'est une chanson populaire qui célèbre la victoire, mais Saül le prend à cœur parce qu'il pense que sa réputation est en jeu. Vous voyez, Saül est très sensible à ce que pensent les autres. Son identité est liée à ce que pensent les autres. Son identité est liée à sa position. Alors forcément, il doit envier les autres lorsqu'ils prennent une ascendance. Il doit envier les autres qui menacent sa position. Il doit envier les autres qui reçoivent plus d'approbation des gens parce que sa vie est liée à ça. Et cela nous donne un éclairage pour notre cœur. Regardez ce que vous enviez et vous allez comprendre votre cœur. Si vous enviez la beauté physique, c'est que vous pensez que la beauté physique peut vous sauver, peut vous donner un sens à votre vie. C'est que la beauté physique, c'est votre appui, votre forteresse, votre rocher, votre asile, comme nous avons chanté ce matin. Si, comme Saül, vous êtes attaché à ce que pensent les autres, c'est qu'au fond, si vous enviez ces acclamations, c'est qu'au fond, vous pensez que votre forteresse, votre libérateur, c'est ce que pensent les autres. Alors, qu'est-ce qui peut mettre fin à tout cela? Eh bien, c'est comprendre toute cette histoire. Et vous savez, plus tard, nous étudions David, mais nous étudions David pour avoir aussi un aperçu de son fils, son arrière-petit-fils, qui est Jésus-Christ. Bien plus tard, le fils de David a été victime de la même envie. C'est en particulier l'envie qui a tué Jésus. Ici, Saül, l'autorité, va commencer à persécuter David, le berger de Bethléem. Ça va être la même histoire dans les évangiles. Les pharisiens face à Jésus, les autorités juives face à Jésus, eux, ils vont vivre la même chose que Saül en voyant que Jésus réussit, en voyant que le monde est attiré vers lui parce qu'il fait des miracles, parce que la bénédiction de Dieu est sur sa vie. Ils vont commencer à le jalouser et l'envier. Il y a plusieurs versets qui disent expressément que c'est par envie qu'ils ont livré Jésus. L'envie a tué Jésus. Mais cette envie, tout comme cette envie était un outil dans les mains de Dieu pour abaisser la maison de Saül, élever David, l'envie dirigée contre Jésus était un outil entre les mains de Dieu pour sauver le monde. C'est l'envie qui a mis Jésus en croix, mais c'est cette croix qui nous sauve et qui peut débarrasser nos cœurs de l'envie. La solution à ce problème, la manière de tuer ce géant de l'envie, c'est oui, la croix. David a jeté un caillou vers Goliath pour le terrasser. Nous pouvons lancer la croix vers l'envie de notre cœur pour en sortir vainqueur. Et c'est là où même Jonathan nous donne une image de Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, le fils du Père, le vrai roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Au lieu d'être envieux, au lieu de s'accrocher à sa position, Philippiens dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Saül devait arracher, garder cette place. Mais Jésus a fait tout le contraire. Il a mis de côté ses droits, il a mis de côté sa royauté, comme Jonathan, pour nous revêtir, pour nous couvrir de tous les privilèges, toutes les réussites qui lui appartiennent. Alors si vous savez au fond de votre cœur, si vous savez que vous êtes recouvert du manteau de justice que Jésus vous offre, que vous êtes couvert, vous êtes habillé dans ses réussites, dans ses richesses, l'envie meurt dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'envier les autres. Vous êtes habillé. Jésus vous a, il a ôté sa gloire et il le pose sur vous. C'est ça la croix. Et si vous reconnaissez ce que Jésus a fait pour vous, voilà, la croix tue l'envie. Et vous pouvez lui couper la tête comme David l'a fait à Goliath. Et ça, c'est possible par la croix de Christ et uniquement par la croix de Christ.